Nous avons le plaisir de vous apporter ce message qui impactera votre vie. Pour toute information et renseignement, allez sur www.benimoi.com.
Nous sommes dans un monde où l'opposition à la foi va de plus en plus forte et de plus en plus forte. Les gens s'attaquent véritablement à la foi des chrétiens impunément et ouvertement. La seule réponse à cela, c'est que nous-mêmes, nous soyons encore plus puissants. Alléluia. Et pour que nous soyons puissants, il faut que la main de Dieu soit sur notre vie. Amen. Dis à ton voisin la main de Dieu. Alléluia. Tout le monde a trouvé 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Ok, je lis. Jabez était plus considéré que ses frères. Amen. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai plutôt enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. J'ai déjà beaucoup enseigné sur ce sujet-là, sur ce thème-là. Et dernièrement, le Seigneur m'a encore reparlé de la prière de Jabez. C'est quelqu'un qui a fait cette prière. Et vous savez, c'est illustré dans la Bible par cette prière seulement, hein. Quand vous lisez tout le chapitre de 1 Chronique 4, quand on parle de Jabez, on parle juste de sa prière et puis après on continue. C'est-à-dire Dieu a inséré ça dans la Bible pour pouvoir servir d'exemple et de référence. Mais quand nous lisons cette prière, c'est vrai que moi-même je l'ai dit, qu'on doit prier comme Jabez. Et beaucoup d'hommes ont prié comme Jabez. Il y a des gens qui ont prié, et la prière de Jabez, elle est simple, elle est courte. Hein. C'est « Bénis-moi vraiment, étends mes limites, que ta main soit avec moi et préserve-moi du malheur. » Toutes les personnes qui font cette prière avec sincérité et avec honnêteté, qui ont vraiment envie de voir la gloire de Dieu dans leur vie, verront la gloire de Dieu. La Bible dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Ça veut dire quoi? Qu'il avait un esprit de supériorité. Qu'il était au-dessus. Comme le Seigneur a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Donc, il était la tête. Et dans sa prière, il a demandé quoi? Bénis-moi vraiment, étends mes limites, que ta main soit avec moi et préserve-moi du malheur. Mais le Seigneur me rappelle que c'est l'Ancien Testament quand même. C'est-à-dire, la prière de Jabez, elle est bien, elle est intéressante, elle est forte, elle est puissante, mais pour nous, c'est juste un indicateur. Un indicateur de choses que nous avons déjà reçues. Parce que quand il dit, bénis-moi vraiment. Quand tu prends Éphésiens, chapitre 1, la Bible dit que, oh, nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Amen, spirituelles, dans les lieux célestes. Donc, tu n'as plus besoin de demander la bénédiction. La bénédiction, elle est déjà là. Dieu, en fait, t'a déjà béni. Maintenant, tu dois marcher dans la bénédiction. En fait, la prière de Jabez, Dieu a répondu à cette prière. Parce que quand Jabez faisait cette prière, Christ n'était pas encore venu. Il n'était pas encore mort sur la croix. Il n'avait pas encore pris nos malédictions. Or, la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 13, que il a pris nos malédictions afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Donc, quand Jabez dit, bénis-moi vraiment. Il y a la bénédiction de Jabez. Et il y a la bénédiction d'Abraham. Mais Dieu lui-même a dit, alléluia, que la plus grande des bénédictions qui puissent exister sur la terre, dans tous les siècles, c'est la bénédiction d'Abraham. Et toi, tu as la bénédiction d'Abraham. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Donc tu es béni. Il faut simplement te rappeler chaque matin quand tu te lèves que j'ai la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Christ a pris mes malédictions et il les a remplacées par la bénédiction. Donc, ce n'est pas la peine de faire, de copier-coller, simplement de dire, Seigneur, bénis-moi. Non, dis merci Seigneur pour la bénédiction qui est sur ma vie. Alléluia. Ça doit faire partie de tes rituels. Vous savez, la vie de beaucoup de personnes ne change pas parce qu'ils n'ont pas changé leur manière de s'approcher de Dieu. Le peuple d'Israël, au lieu de remercier le Seigneur, toujours se plaignait. Et je sais que ta vie est dure pour certains. Je sais que tu as des difficultés, que tu as des oppositions et que tu as des combats. Mais la Bible dit que le souhait de Dieu pour nous, c'est que nous puissions lui rendre grâce en toutes choses. Alléluia. Il y aura plus de résultats lorsque tu vas remercier le Seigneur que lorsque tu vas te plaindre. Parce qu'en réalité, et ça c'est très fort, moi-même ça me secoue. Quand tu dis Seigneur, bénis-moi, ça veut dire quoi? Que tu n'es pas béni? Que tu te plains de ne pas être béni? Donc ce que Jésus est venu faire sous la croix là, c'est quoi alors? Tu veux qu'il revienne encore? Tu veux qu'il revienne encore faire le travail? Non, en réalité tu es béni. La seule chose c'est que tu ne marches pas encore dans cette bénédiction. Mais quand tu dis, Seigneur, bénis-moi, il dit, mais elle veut quoi? Ou il veut quoi encore? Parce que là où il a rejeté la bénédiction, là, quand il va ouvrir, c'est plus là-bas. C'est déjà parti. Dis, je suis béni. Alléluia. Il faut te rappeler ça tous les matins. Ça doit faire partie des choses que tu te dis. Si les autres ne te disent pas, toi-même tu te le dis. Amen. C'est ce qu'on appelle confesser la parole. Amen. On appelle confesser la parole. Si les autres ne te disent pas, toi-même dis-le. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis béni de la plus grande bénédiction qui puisse exister sur cette terre. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et je marche dans la bénédiction. Alléluia. Donc, Jabez, il voulait la bénédiction. Toi, tu es déjà béni. Alléluia. Ensuite, il dit, et que tu étendes mes limites. C'est fort quand même. Hein? J'avais dit, étends mes limites. Et nous avons un autre homme de Dieu qui s'appelle Paul. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et il dit que toi également, tu peux tout par celui qui te fortifie. Donc si aujourd'hui tu dis, Seigneur, étends mes limites, c'est comme si tu avais des limites. Ben, est-ce que la Bible dit que tu n'as pas de limites? Jésus même va plus loin en disant que ceux qui me suivront, non seulement feront les choses que je fais, mais ils en feront de plus grandes. Ils en feront de plus grandes, donc tu n'as pas de limites. Touche ton voisin, dis-lui, tu n'as pas de limites. Oh my God, il n'a pas encore saisi, regarde-le dans les yeux, tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Vous savez, quand on est dans le monde et qu'on arrive sur cette terre, même quand tu arrives en France, la première chose qu'on commence à t'énumérer, c'est toutes les limitations que tu as dans ta vie et les choses que tu ne pourras pas faire. Dieu dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Tu n'as pas de limite. Jabez avait besoin de demander, Seigneur, étends mes limites. Mais lui, il voulait que ses limites soient étendues. Dieu lui dit que toi, là, si tu n'as pas besoin de limites étendues, tu n'as simplement pas de limites. Tu peux être et devenir tout ce que tu veux. Alléluia. Tu peux te retrouver un jour à prêcher l'évangile devant des centaines de milliers de personnes. Ce n'est pas une limite. Tu n'as pas de limite. Tu peux te retrouver dans ta propre entreprise avec plus de 250 personnes qui travaillent pour toi. Tu n'as pas de limite. Et puis surtout, ne te limite pas à quelqu'un. Parce que le problème, c'est qu'on veut tous, toujours entrer dans nos bénédictions avec quelqu'un. On a l'impression que c'est avec cette personne-là qu'on peut rentrer dans notre bénédiction. Mais des fois, cette personne-là, il est comme un lot dans ta vie. Lui, il n'a pas la même révélation que toi. Il n'a pas le même appel que toi. Il n'a pas même peut-être même reçu la même bénédiction que toi. Lot, il a reçu la bénédiction de Lot. Abraham, la bénédiction d'Abraham. Et toi, tu as la bénédiction d'Abraham. Tu n'as pas la bénédiction de Lot. D'ailleurs, Dieu a révélé à Abraham sa bénédiction après que Lot soit parti. Il y a des gens qui sont des poids pour ta vie. Et c'est pour ça que cette affaire de mariage, il faut bien prier pour entrer dans le mariage. Il faut bien prier quand tu es dans le mariage. Parce que, en tout cas, alléluia, avant là, c'est là il faut faire très attention. Si tu es déjà dedans, bon, il faut prier. Il faut jeûner. Alléluia. Et surtout, il faut faire comprendre à la personne que elle-même là, elle ne peut pas te limiter. C'est vrai que ça va t'affecter. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir, de vivre, de manger, de dormir, d'être avec quelqu'un 24 heures sur 24 qui ne croit pas en toi. Donc ça veut dire qu'il va falloir maintenant toi-même chercher maintenant des moyens de pouvoir te fortifier, de pouvoir entendre des choses. Si lui, il ne te dit pas les bonnes choses, toi-même, chaque matin, mets-toi devant le miroir. Oh my God! Alléluia! Il y a des gens qui disent, oui, mon mari ne me dit pas que je suis belle. Regarde-toi dans le miroir. Tu dis, je suis belle. Alléluia! Alléluia! Je suis béni. Si ton mari te dit, toi, maudite là, toi, tu te regardes dans le miroir, dis, je suis béni. Je suis belle. Je prospère. Je suis en paix. Je me multiplie. La main de Dieu est sur ma vie. Alléluia. Ne permets pas à quelqu'un de déterminer ce que tu es et ce que tu seras. Alléluia. Il y a des gens qui vont répéter la prière de Jabez 50 fois, Seigneur, si tu me bénis vraiment, si tu t'en mets, ça là, c'est passé. Dieu dit, non, cette prière là n'est plus valide. C'est dépassé. Si tu me bénis vraiment, ça veut dire quoi? Que tu n'es pas béni? Oh, tu es béni. Étant mes limites, ça veut dire quoi? Que tu es limité? Tu n'as plus de limites. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Ça veut dire que le diable ne peut pas, il peut pas te limiter. Voilà. Il peut te limiter par les mensonges, c'est-à-dire par les mensonges du diable que tu crois. Il passe par les gens pour dire, toi là, toi comme ça là, tu penses que tu peux faire? Tu penses que tu peux y arriver? Tu penses que dans ce pays-là, tu peux faire quelque chose? Tu penses que tu peux... À chaque fois, mais c'est des mensonges. Le diable, la Bible dit qu'il est un menteur et il est le père des menteurs. Si le diable te fait croire que tu as trop fait d'erreurs et que maintenant c'est fini, Dieu ne peut plus t'utiliser, il est un menteur. Alléluia! C'est un menteur. Si c'est vraiment dans ce cas-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà tué des gens ici. Hein? Et quand bien même, Moïse, il a tué quelqu'un, mais il a été le plus grand libérateur. Paul, il n'a pas tué une seule personne, il a tué plusieurs, des chrétiens en plus. Il les a tués. Et c'est quand même, il partait tuer des chrétiens que Dieu lui a parlé. Et au lieu de tuer les gens maintenant, il est devenu le plus grand gagneur d'âme de sa génération. My God, Dieu peut t'utiliser, quel que soit ce que tu as fait. N'écoute pas les mensonges du diable. Tu n'es pas Jabez. Non. Et il n'est pas plus grand que toi. La Bible dit que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean le Baptiste. Or, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean le Baptiste est le plus grand. Donc, Jean le Baptiste est plus grand que Jabez. Et toi, tu es plus grand que Jean le Baptiste. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Nos limites. Il va dire ensuite une autre chose, que ta main soit avec moi. Et ensuite, préserve-moi du malheur. Que ta main soit avec moi. Parce que, vous savez, dans tout processus d'élévation de la part de l'Éternel, je dis bien de la part de l'Éternel, parce que quelqu'un peut être élevé par l'ennemi. Soyons honnêtes, ne soyons pas hypocrites, disons-nous la vérité. S'il y a quelqu'un qui ne le croit pas, rappelle-toi très bien, quand Jésus allait jeûner dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits, qui lui est apparu? Le diable. Il lui a dit quoi? Prosterne-toi devant moi, et je te donnerai la gloire de la terre, car elle m'a été donnée. Ça, c'est une des rares fois où le diable n'a pas menti. Il ment souvent, hein? Mais ce jour-là, elle m'a été donnée. Bon, il a menti quand même. Voilà. Parce qu'on lui a pas... Adam, vous voyez, c'est un menteur à 100% même. Parce qu'il n'était pas là dans son coin et puis Adam est venu lui dire, tiens, voilà la gloire de la terre. Il allait user de fourberie, de ruse, de manipulation. Il a escroqué Adam. C'est un escroc. Donc, on ne lui a pas donné. Il dit, car, il aurait dû, s'il disait la vérité là, il aurait dû dire, car je l'ai volé. Vous voyez? Parce qu'on ne lui a pas donné. Mais il dit à Jésus, il est culotté quand même. Il est gonflé celui-là. Mais il dit à Jésus, notre Jésus, il dit prosterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire sur la terre, la gloire de la terre. Prosterne-toi devant moi. Donc, Jésus, lui, il ne s'est pas prosterné devant lui parce qu'il sait que cette gloire-là, il est venu la récupérer. Il dit, cette gloire, tu ne vas pas me la donner, je vais la récupérer. Mais combien d'hommes sur la terre se sont prosternés effectivement devant le diable pour avoir cette gloire-là qu'il a volée à Adam? Combien de personnes? Mais cette gloire qu'il a volée à Adam, je vais vous dire, et c'est garanti, Jésus l'a récupérée entre sa main. Et il la donne. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin de te fourvoir et de mentir et de voler ou de te... Tu as simplement besoin de savoir devant qui tu vas te prosterner en fait. À qui, devant qui tu vas te soumettre. Si tu te soumets à Dieu ou si tu te soumets à l'ennemi. Mais quand tu te soumets à Dieu, apprends aussi à vivre au rythme et à avancer au rythme de Dieu. Il ne faut pas vouloir être plus pressé que Dieu lui-même. Parce que Dieu construit ton témoignage et te construit en même temps. Le temps dans l'accomplissement des promesses de Dieu fait partie également du processus. Il te rend plus forte. Il te donne même la capacité de répondre. Parce que quand tu auras le témoignage, le diable va vouloir gâter ce témoignage-là. Mais toi, tu dois être plus forte. Et il te prépare. Il te forme. Il te forme, mais le temps vient, le temps arrive. Alléluia. Si ta main est avec moi, en d'autres mots, il dit que ta main soit sur moi. Mon message aujourd'hui, c'est sur la main de Dieu. Quand il dit que ta main soit sur moi, là, qu'est-ce qu'il demande en réalité? Hein? Il demande le Saint-Esprit. Il demande l'onction. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi. Il demande que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit sur lui. Soit avec lui. Amen. Et c'est quelque chose qui est primordial. Regardez, prenons Exode. Exode chapitre 33, verset 1. Parce qu'il faut que il faut qu'on comprenne maintenant, en fait, pourquoi est-ce que nous devons, quel genre de prière nous allons faire hein, dans cette fin d'année, en début d'année, et pourquoi il y a certaines choses qui sont déjà réglées. Amen. Et puis, par contre, il y a d'autres choses qui ne sont pas réglées. Parce qu'effectivement, quand Jabez dit « bénis-moi vraiment », tu es déjà béni. Quand il dit « étends mes limites », tes limites sont déjà, tu n'as plus de limites. Mais que ta main soit avec moi, là, c'est une autre chose. Amen. Parce que c'est sûr, tu es béni, tu n'as plus de limites. Mais est-ce que la main de Dieu est sur toi? Et avec toi? Regarde dans Exode chapitre 33, verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éthiens, les Phérisiens, les Hiviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. C'est-à-dire, Dieu dit à Moïse, va prendre le pays que je vous ai promis, rentre dans ta bénédiction, rentre dans tes promesses, mais la bénédiction est déjà là. Dès le moment où Dieu a promis Canaan à Abraham, Abraham ne pouvait plus demander encore à Dieu de le bénir. Parce que la bénédiction est là, sauf qu'il n'est pas encore entré dans la bénédiction. Maintenant, pour entrer dans la bénédiction, Dieu lui dit que je vais envoyer un ange pour pouvoir combattre avec toi. Il y a des gens, dès ce stade-là, ils sont contents. Oh, Dieu a délégué un ange du ciel qui est venu. Yeah, j'ai un ange qui combat pour moi, machin. Mais Moïse dit, nous, on ne veut pas d'ange. C'est toi-même qu'on veut. Oh my God. Alléluia. C'est toi-même qu'on veut. La Bible dit, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, ils appellent ces paroles-là des paroles sinistres. Parce que de dire que Dieu ne sera pas avec nous, mais Dieu n'a pas voulu être avec eux pour leur propre sécurité. Parce qu'il a dit, je préfère envoyer un ange devant vous pour combattre pour vous et vous faire entrer dans vos promesses que moi-même de descendre parce que vous êtes un peuple au cou raide. Un peuple au cou raide, ça veut dire que vous êtes têtu. Vous êtes dur. Quand il y a des choses, on vous dit, comme dans la chanson tout à l'heure, mon cœur est tortueux par-dessus tout. C'est mon cœur là, est trop dangereux. Dangereux. Dieu lui-même a dit, le corps de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Ensuite, il lui a dit, mieux vaut que ce ne soit pas moi qui vienne. Parce que vous êtes un peuple au cou raide. Cou raide, c'est clair. Quelqu'un qui a le cou raide, sa tête l'air comme ça. Là où il a décidé, là. Il n'y a rien pour pouvoir rendre son cou là un peu. Il y a des gens qui doivent attraper leur tête là et puis bouger ça un peu pour que ça s'assouplisse un peu. Pour qu'ils commencent à obéir à Dieu. Et si moi-même là, je viens, il dit de peur que je ne vous consume. Le problème, c'est que Dieu, là, il peut mettre sa main sur qui il veut. Mais le problème, c'est quand il va mettre sa main là, est-ce que la personne va continuer de vivre? Parce que ça peut être dangereux pour la personne. Il y a des gens, Seigneur, visite-moi. Ah, hey, hey. Peut-être que tu n'es pas vraiment sûr. Tu n'es pas vraiment sûr. Parce que si tout de suite on te dit, par exemple, je prends un exemple du monde. On te dit que Hollande va venir manger chez toi. Lundi soir, à 18h, même si tu n'as pas voté PS. Tu vas récurer ta maison. Tu vas nettoyer. Tu vas rendre ça propre. Tu vas... Ah, mais tout ce qui est déchiré, tu vas enlever. Tu vas aller jeter. Hollande, viens chez moi. Pourtant, tu n'es pas du Parti Socialiste. Mais parce que tu sais que c'est un... Maintenant, tu dis, Seigneur, visite-moi. Donc, tu t'attends à la visite de l'Éternel des armées, qui est plus grand que Hollande. Mais le simple fait de constater que toi-même, tu crois dans la prière que tu es en train de faire, c'est que tu commences toi-même à mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Le fait que tu crois dans la prière que tu dis fait que en réalité, toi-même, tu commences à mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que tu dis, faut pas, Dieu va venir me trouver. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Va venir te visiter dans quoi? Dans le lit de... Que ta main soit sur moi. Donc il leur a dit, l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, un seul instant, je te consumerais. c'est pas de l'amusement. Dieu veut t'utiliser. Tu n'as pas de limite. Tu es déjà béni. Dieu veut maintenant te faire entrer dans tes bénédictions. Le problème, c'est que pour que tu rentres dedans, il faut que Dieu lui-même vienne et qu'il marche avec toi. Alors le problème, c'est que il y en a qui ne sont pas encore fréquentables. Parce que s'il vient, c'est dangereux pour toi. Donc, il te donne le temps de te préparer, de te repentir, de te laver, de te nettoyer. Mais il y a des gens, à peine ils sont un peu nettoyés, courent encore pour se plonger dans la boue. Tout à l'heure, le frère nous a fait faire une prière. Il y a eu une onction de repentance dans la salle. Il y a des gens qui sont repentis. Il y a des gens qui ont vu leur péché. Il y a des gens qui ont vu leur vie. Mais qu'on va sortir d'ici là. Il y en a d'autres qui vont retourner encore dedans. La Bible dit le chien est retourné manger son vomi. Aïe. Tu peux vomir et puis aller manger son corps. C'est comme ça Dieu voit les gens qui retournent manger des situations qu'ils ont déjà vomi. Tu as vomi cette relation là. Maintenant, c'est du vomi. Tu ne peux plus laver ça. C'est pas possible. Mais il y a des gens qui remangent encore. L'Éternel dit à moi, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Il ne faut pas que Dieu dise de toi que tu as le cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Et je verrai ce que je te ferai. Après, bon, vous pouvez lire après. Hein. Vous pouvez lire après. Ce passage-là, il est très enrichissant. Et par exemple, au verset 16, ensuite, il dit, « Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» Quand nous serons quoi? Distingués. Parce que quand Dieu marche avec quelqu'un, cette personne-là devient distinguée. Quelqu'un qui a la main de Dieu sur sa tête, qui a la main de Dieu avec lui, est forcément différent de quelqu'un qui ne l'a pas. Il y a une distinction. Quelle est la distinction? Dieu est avec moi. Alléluia! Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu ouvre la porte pour toi, qui peut la fermer devant toi? Le fait que Dieu soit avec toi est une distinction. Et tous ceux avec qui Dieu marche, il les distingue. Vous savez, les gens ont un problème avec un soi-disant évangile de prospérité. Ils disent l'évangile de prospérité. Effectivement, il y a cette conception-là de croire que pour que Dieu marche avec toi, il faut que tu roules en Jaguar, par exemple. Genre, Dieu ne rentre pas dans les vilaines voitures. Ce n'est pas vrai. Peut-être que tu as une deux chevaux. Dieu peut venir te rencontrer partout. Mais une vérité que les gens doivent aussi entendre, c'est que si Dieu vient s'asseoir avec toi dans ta deux chevaux là, je te garantis que tu ne vas pas continuer à conduire une deux chevaux pendant longtemps. Ça, je peux te le garantir. Alléluia! C'est-à-dire que ta deux chevaux ne peut pas empêcher Dieu de venir s'asseoir avec toi. Mais quand il va venir s'asseoir avec toi dans la deux chevaux là, il y a quelque chose qui va commencer à se passer. Alléluia! Donc, de croire que non, il faut être prospère pour que Dieu vienne. Non, c'est pas vrai. Dieu n'a pas besoin que tu sois prospère pour qu'il vienne dans ta vie. Mais quand il vient là, il va te distinguer. Les choses anciennes sont passées. Toute chose va commencer à devenir nouveau. Alléluia! De peur de choquer quelqu'un. Non, c'est pas... Les choses vont devenir nouvelles. Ton ancienne manière de vivre va changer. Les choses qui t'effrayaient avant ne peuvent plus t'effrayer. Les choses qui te donnaient des palpitations ne peuvent plus te donner des palpitations. Les choses qui t'inquiétaient ne peuvent plus t'inquiéter. Les choses changent et les choses vont changer. Il a dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quelqu'un qui est docile, c'est l'opposé de quelqu'un qui a le cou raide. Amen. Donc quand tu n'as pas le cou raide, Dieu marche avec toi. S'il marche avec toi, tu vas manger les meilleures productions du pays. La prospérité. Psaume 119, verset 173. On parle quand même du Dieu qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. On parle du Dieu qui a pourvu à tous les besoins de tous ses serviteurs. Il n'y a aucun serviteur de Dieu que vous allez voir dans la Bible dont les besoins n'étaient pas pourvus. Psaume 119. Vous savez, il y a beaucoup de psaumes, hein? Il y en a jusqu'à 150. Et le 119, c'est le plus long de tous les psaumes. Il y a jusqu'à 176 versets dans le psaume 119. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mémorisé le psaume 119? Tu connais ça par cœur? Hey, il y a une sœur qui connaît par cœur. Alléluia, on acclame le Seigneur pour la sœur. Je ne peux pas te demander de nous faire la démonstration, parce que sinon le culte va finir à 17h30. Alléluia. Le psaume, le verset 173. Il dit que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Parce que la main de Dieu, paradoxalement, peut être en aide comme elle peut être contre toi. Elle peut être en aide comme elle peut être contre toi. Elle peut agir contre toi. Dans le psaume 31, verset 36. Verset 16 plutôt. 31, 16, il n'y a pas 36 versets dans le psaume 31. Verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Mes destinées sont dans ta main. Alléluia. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées, ça veut dire quoi? Qu'il y a plusieurs destinées. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une seule destinée, ma destinée. Non, tu as des destinées. Parce que c'est une question de choix, c'est une question d'attitude, c'est une question, tu as une destinée avec le cou raide. Et puis tu as une destinée en étant docile. Tu as tous les hommes ont deux. Regardez, si vous dites qu'on a une seule destinée, ça veut dire que personne ne peut échouer. N'est-ce pas? Parce que quand Dieu, il dit que la destinée, c'est quoi? C'est le plan de Dieu avant ta naissance. Donc, si Dieu te destine à quelque chose, destiné, je suis né pour ce destin. Donc, il te destine à quelque chose. Dieu ne peut pas te destiner à quelque chose de négatif ou à quelque chose de mauvais. Personne n'est destiné à être mendiant. Personne n'est destiné à être malheureux. Personne n'est destiné à rater sa vie. Mais, vous avez une personne, soit elle se soumet à Dieu et elle est docile. Docile, ça veut dire qu'elle accepte le changement. Dis à ton voisin, changement. Amen. De toutes les façons, les gens changent. Et pour entrer dans ta destinée, tu dois changer. Quelqu'un qui refuse de changer, c'est quelqu'un qui refuse d'avancer. Donc le changement est obligatoire pour quelqu'un. Les gens doivent changer. Les gens qui refusent de changer, c'est qu'ils ne veulent pas que leur vie avance. Maintenant, dans le changement, tu as deux sortes de changements. Parce que les gens changent obligatoirement. Mais il y a deux manières de changer. Soit ils deviennent pires, soit ils deviennent meilleurs. Il y a des gens qui changent négativement et il y a des gens qui changent positivement. Amen. Mais pour changer, il faut être quoi? Docile. Quelqu'un qui ne change pas, c'est quelqu'un qui a le cou raide. Est-ce que vous me suivez? Jusque-là, vous me suivez? Donc quand il dit « mes destinées sont dans ta main », il a raison. J'ai deux destinées. Et ça dépend de ta main. Si je suis docile, ta main est avec moi, il y a une destinée au bout de ça. Si j'ai le cou raide, ta main n'est pas avec moi et il y a une autre destinée. Les deux destinées là ne sont pas pareilles. Hello? Mes destinées sont dans ta main. Mon avenir, Seigneur, est dans ta main. Ce que je serai est dans... C'est dans la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est dans sa main. C'est lui, c'est dans sa main. C'est pas dans la main du diable. C'est dans la main de l'Éternel. Parce que quel que soit mon parcours, quelles que soient les situations que j'ai traversées, le jour où la main de l'Éternel est avec moi, la destinée que l'Éternel a établie pour moi va s'accomplir. Et si, encore une fois, c'est Dieu avec moi, qui peut être contre moi? Impossible. Amen. Regardez, Job va nous révéler quelque chose. Dans Job 19, verset 21, il va parler d'une autre facette de la main de l'Éternel. Et il va dire quelque chose. Il dit, « Ayez pitié. Ayez pitié de moi, vous mes amis. » Car la main de Dieu m'a frappé. Car la main de Dieu m'a frappé. Il reconnaît que, en fait, quand vous voyez dans l'Ancien Testament quelqu'un accuser Dieu, ne prenez pas ça au mot, en fait. C'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que quand il dit « la main de Dieu m'a frappé », en fait, c'est une manière, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas frappé, mais la main de Dieu a permis qu'on le frappe. Est-ce que vous me suivez? Reprenez l'histoire de Job. Satan vient se plaindre à Dieu. Et il dit à Dieu, tu vois ton serviteur Job là, il me fatigue. Dieu dit, mais mon serviteur, tu l'as vu aussi, il est bien, c'est un bon gars, il prospère. La Bible dit qu'il était l'homme le plus prospère de sa génération dans son pays, il était vraiment quelqu'un d'excellent et tout. Maintenant, Satan va dire quelque chose de très significatif. Il dit, mais c'est parce que tu le protèges. Ça veut dire que lui, il a essayé déjà de l'attaquer. Mais à chaque fois qu'il va attaquer Job, qu'est-ce qu'il voit? La main de l'Éternel. Alléluia. Donc, il retourne, après, il va maintenant, il va jouer sur une corde, il va toucher quelque chose. Et il vient maintenant et dit à Dieu, mais est-ce de manière désintéressée que Job te sert? En fait, il va réclamer à Dieu que Dieu fasse la même chose qu'il a faite à l'égard d'Abraham, la même chose qu'il a faite à l'égard de Jésus. La même chose qu'il a faite à l'égard de tous ceux qui l'ont servi, même Joseph. C'est-à-dire, il ne va pas éprouver ta foi, mais il va éprouver ton amour. Il va éprouver ton amour. Il dit, est-ce de manière désintéressée que Job te sert? En d'autres mots, ça veut dire que le seul rapport que Job a avec toi, c'est parce que tu le bénis, parce que tu le prospères, c'est parce que tu lui donnes de l'argent, c'est parce que tu le mets à l'abri du besoin. Mais si tu retires ta main et que tu me laisses m'occuper de lui. Non, en d'autres mots, le diable peut s'occuper de tous ceux sur lesquels Dieu... Retirer la main. Et laisse-moi gérer ça. Mais maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu peut retirer la main? Il y a plusieurs raisons. Ça, On va en parler. Alléluia. Il y a des fois, ça vient de toi. Il y a des fois, c'est tout simplement une épreuve. Tout simplement, Dieu t'éprouve. Éprouver quoi? Ton amour. Dès que Dieu a retiré la main, le diable a commencé à travailler. La femme de Job, c'est sa femme. Celle avec qui il a partagé toutes les bénédictions, toutes les richesses. Elle se lève, elle lui dit, écoute, maudit Dieu, et meurt. Ça, c'est le pire conseil qu'on puisse donner à quelqu'un. C'est grave. Maudit Dieu, et meurt. Maudit Dieu, et puis maintenant, elle voulait qu'il aille en enfer. Parce qu'il ne peut pas supporter. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas renié Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Il y a un moment là, ta foi même ne peut même plus faire grand chose pour toi. Ce qui reste là, c'est l'amour que tu as pour Dieu. L'amour. L'amour que tu as. C'est pour ça que ceux qui ont la main de Dieu sur leur vie, ce sont des gens qui aiment Dieu passionnément. Quand quelqu'un aime Dieu, tout ce que les hommes peuvent lui dire ne peuvent rien lui faire. Ça ne peut pas influencer sa relation avec Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, il n'y a aucune situation qui ne soit insurmontable. Quand quelqu'un aime Dieu, il n'y a aucun obstacle qui soit insurmontable. Paul a dit, mais qui me séparera de l'amour de mon Dieu? Serait-ce la tribulation? Serait-ce quoi? La faim? Serait-ce la pauvreté? J'ai appris à servir Dieu dans l'abondance comme dans la pauvreté. Alléluia. Quand il n'y en a pas, tu sers Dieu. Quand il y en a, tu sers Dieu. Et quand il n'y en a pas, tu sers Dieu. Il y en a, le temps où il y en a, où il y aura là, ça vient. Parce que Dieu, la Bible dit que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Dis à ton voisin la main de Dieu. Regardez dans Ecclésiaste 2, 24. Donc vous voyez, nos destinées sont dans la main de Dieu. Il ne faut pas que la main de Dieu permette que certaines choses arrivent. Même s'il permet, il permet, gloire à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu pour toutes les persécutions que je peux subir. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Au moins, tu auras un témoignage. Ah. Les gens te connaissent. Ils veulent pas. Arrive au ciel là-bas, vraiment. J'ai dit quoi? Ecclésiaste. 2.24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui peut permettre à un homme de jouir de son travail, de faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail et d'être dans le bonheur à manger et à boire les choses qu'il a. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le bonheur. Il y a des gens qui ont des richesses, mais qui n'ont pas le bonheur. La dernière fois, je regardais la vie de certaines personnes, et puis, bon, je ne sais pas, dernièrement, je crois qu'on devait parler de Michael Jackson, un truc comme ça. Et puis, je regardais la vie de cet homme. J'ai vu même une image de lui, j'ai vu des vidéos de lui. Quelqu'un qui a connu le succès à l'âge de 18 ans, il a sorti un album qui a été l'album le plus vendu dans le monde. Du jour au lendemain, il est devenu multimillionnaire. Qu'est-ce que cet homme-là, après, a manqué? Mais quand tu regardes sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a jamais connu le bonheur. Il était malheureux. Il était malheureux pour la couleur de sa peau. Il a changé la couleur de la peau jusqu'à elle est devenue grise. J'ai dit, mais les médecins, là, il y en a même, on doit les mettre en prison. Parce que quand un gars vient te voir, il dit, non, faut diminuer mon nez encore. Tu dois lui dire, écoute, on a assez diminué, là, maintenant, c'est bon, on ne peut plus faire encore. C'est bon. C'est-à-dire qu'il devait même refuser. Une fois, ils ont arrêté le médecin qui soi-disant, l'a tué. Moi, je dis bien même soi-disant, parce qu'en réalité, quand tu regardes les dernières images de Michael avant sa mort, mais le gars, il était déjà mort. Et les gens lui disent, il y a des gens qui sont venus, tu as tué Michael, tu as tué Michael. Il dit, hé, hey, je n'ai pas tué Michael, hein, c'est Michael lui-même qui s'est tué. C'est lui-même qui s'est tué. C'était un suicide. Mais seulement ça a pris du temps. Le médecin dit, le gars, il prenait des médicaments pour dormir et des médicaments pour se réveiller. Il avait un composé de drogue, là, il appelait ça son petit lait. Et son petit lait, là, si tu bois ça, on va t'enterrer en même temps. Parce que c'est des psychotropes, des tout mélangé. My God. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais il contribue, n'est-ce pas? Mais ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Mais l'Ecclésiaste dit, il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger, à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Donc un homme heureux, il a un travail dont il jouit. Il n'a pas un travail qui est une sorte d'esclavage. Ça veut dire que son travail lui permet quand même de manger, de boire, d'être à l'aise, de vivre, de profiter de la vie, de permettre à son âme aussi de connaître le bonheur. Ça, c'est pas des choses que Dieu défend. On nous fait croire que dans l'église, oui, il faut se contraindre, il faut être dur, il faut pas vivre et ce genre. Non, Dieu veut qu'on connaisse le bonheur. Cette notion de bonheur là, il a fait, c'est pour ses enfants. Il n'a pas dit soit dans la tristesse, soit dans le bonheur. Alléluia. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. La seule manière pour quelqu'un de vivre vraiment dans le bonheur, c'est que la main de Dieu soit avec cette personne-là. Alléluia. Dis la main de Dieu. On va lire un dernier passage et puis ensuite nous allons prier. Ésaïe 26, verset 11. Ésaïe 26, verset 11. Qu'est-ce que Ésaïe, le grand prophète, nous dit? C'est juste après Ecclésiaste. Hein, vous continuez, vous avez les lamentations. Vous avez Jérémie, vous avez les lamentations. Ensuite, vous avez Ésaïe. Il fait partie des prophètes majeurs. Ésaïe 26, verset 11. Il dit, Éternel, ta main est puissante. Amen. Ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Alléluia, ta main est puissante. C'est le feu qui consume tes ennemis. Quand quelqu'un a la main de Dieu sur sa vie, les ennemis de sa vie sont consumés. Alléluia, pourquoi? Parce que la main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Elle rend les gens supérieurs. J'ai dit que c'est le dernier passage, non, c'est pas vrai. Il y a encore deux autres passages. Mais la main de Dieu, elle est puissante. Et tous ceux sur lesquels cette main-là est, tous ceux avec qui la main de Dieu est, toutes ces personnes-là sont au-dessus. Elles sont au-dessus. Elles sont miraculeusement au-dessus. Regarde Genèse 41, verset 38. Genèse 41, verset 38. La main de Dieu était avec Joseph, n'est-ce pas? Mais malgré le fait que la main de Dieu soit avec Joseph, Joseph a connu la prison, n'est-ce pas? Mais un jour, verset 38, la Bible dit que Pharaon, vous avez trouvé? Pharaon dit à ses serviteurs, qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs? Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Pourquoi je lis ça? Parce que il y a une version, c'est-à-dire dans la version en hébreu, La partie, surtout dans ce passage-là, où il dit, ayant en lui l'Esprit de Dieu, est traduit avec les mêmes mots, ayant sur lui la main de Dieu. Donc, avoir l'Esprit de Dieu et avoir la main de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, restez là jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père a promis. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins, mais le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais c'est la main de Dieu qui vient à être avec vous. Et en parlant maintenant de la main de Dieu, il a dit, il sera sur vous, il sera avec vous, et surtout, et il sera en vous. Donc maintenant, on n'a même pas besoin d'avoir la main de Dieu sur nous seulement. On a la possibilité d'avoir la main de Dieu en nous. En nous. C'est pour ça qu'il a dit que je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est en toi. Elle est en toi. Dis amen trois fois. Elle est en toi. Elle est en toi. Tu sais, verset 39, il dit une autre chose. Il dit, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, regarde ce qu'il dit, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. La main de Dieu te rend supérieur. Elle te met à la tête. Il dit, lui-même qui est Pharaon, il dit, je reconnais que dans mon peuple d'Égypte, là, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. En d'autres mots, la main de Dieu dans ta vie va te rendre plus sage et plus intelligent que tous ceux qui sont autour de toi et qui sont à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible dit du Saint-Esprit qu'il y a un esprit de sagesse et un esprit d'intelligence. Un esprit de force et un esprit de conseil. Un esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La main de Dieu dans notre vie. La main de Dieu en nous. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais moi, je n'ai pas la main de Dieu. Hein, parce que toi-même, tu as dit que pour avoir la main de Dieu, il faut marcher d'une certaine manière, ce genre de choses. Mais moi, je veux te dire que tu as la main de Dieu en toi. Elle n'est pas encore partie. Elle peut partir, mais elle n'est pas partie. Tu as dit, oh, pasteur, c'est pour nous encourager que tu nous dis ça. Non, ce n'est pas pour t'encourager. Tu vas me dire, mais pourquoi? Pourquoi? Comment tu sais que la main de Dieu est en moi encore et toujours en moi? Parce que moi-même, là, si je te dis la moitié de ce que j'ai fait, toi-même, tu vas douter que la main de Dieu là soit avec moi. Mais moi, je veux te dire, tu sais pourquoi je sais que la main de Dieu est avec toi? Parce que si Dieu avait enlevé sa main, là, tu ne serais pas ici. Tu ne serais pas ici. Tu es là parce que Dieu ne t'a pas encore. Il n'a pas encore levé sa main. Il n'a pas encore levé sa main. Il n'a pas encore enlevé sa main. Sauf que, normalement, la puissance doit se dégager. Quelque chose doit se produire. La main de Dieu est là, mais il y a des choses qui empêchent cette main-là d'agir. Ce sont ces choses-là qu'il faut enlever. Alléluia. Comment enlever ces choses? Et c'est là qu'on va lire nos derniers passages. Dans le livre de Deutéronome 28. Tout est collé, tout est relié. Amen. J'ai déjà prêché ce message-là d'une autre manière, plusieurs fois. Et pourquoi? Parce que c'est l'appel, c'est notre appel. Amen. Winner's Life. C'est notre appel. Ceux qui veulent vraiment profiter de l'onction de Winner's Life, de la grâce de Winner's Life, ils doivent couler dans l'onction de Winner's Life. Ils doivent accepter le chemin que Dieu nous a donné. Amen. C'est un chemin qui est simple. C'est un chemin qui consiste tout simplement à mettre en pratique les ordonnances et les commandements de Dieu en totalité, tous, sans rien mettre de côté. C'est tout ce que Dieu nous demande. Faisons ça pendant un an. Amen. On peut prendre cet engagement. C'est comme un engagement. C'est pour ça que je dis, on aura un culte le 1er janvier. Mercredi 1er janvier, on aura un culte. Amen. Il y a une seule chose où Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Donc, on va prendre à témoin cette année-là, l'année 2014. Et on va dire, bon, on a eu plusieurs années avant. On a eu plusieurs 31, plusieurs premiers. On a pris des engagements, on s'est désengagé et tout. Mais cette année 2014-là, on va prendre un réel engagement. Amen. Et on va respecter, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, quel que soit ce qui se passe, on va respecter cet engagement. Et on va voir à la fin de 2014 où est-ce qu'on sera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? Moi, je veux le faire. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique quoi? Tous ses commandements. Est-ce qu'il a dit la moitié de ses commandements? Le tiers de ses commandements? 80% de ses commandements? Non, il a dit tout. Mets en pratique tous ses commandements. La totalité. Amen. C'est la totalité de la mise en pratique de ses commandements qui débloque véritablement la main de Dieu. Et quand la main de Dieu commence à agir dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est au niveau d'une nation. Si c'est un être humain, il te donnera la supériorité sur tous les autres êtres humains de la terre. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est en action dans ta vie. Comme il a fait pour Joseph. Il est plus intelligent et plus sage. C'est comme la Bible va nous dire, non, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Un esprit qui nous rend fort, un esprit qui nous donne la capacité d'aimer et un esprit qui nous rend sages. 2014 sera pour tous ceux qui marcheront dans l'alliance d'obéissance à la parole de l'Éternel une année d'extrême bénédiction, une année de multiplication, une année où ils vont expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia! Ensuite, si vous aimez ça, vous pouvez continuer. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Dis amen à chaque fois. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Et toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu te donne ce pays-là, cette France-là. Dieu te donne ça au nom de Jésus. Il te donne ce pays-là pour y prospérer. Et pour voir la gloire de Dieu se manifester. Cette gloire va se manifester avec la main de Dieu dans ta vie. Amen. Tous les peuples te verront. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Les gens vont dire, celle-là, Dieu est avec elle. Hein? Alléluia. Faut que tes collègues confessent que Dieu est avec toi. Faut que tes collègues confessent que Dieu est avec toi. Faut que tes ennemis confessent que Dieu est avec toi. Faut que ton voisin dise, l'Éternel est avec lui. Alléluia. La Bible dit qu'ils verront que l'Éternel est avec toi et ils te craindront. Pas qu'ils vont avoir peur de toi, mais ils vont te craindre. Pourquoi? Parce que ce que tu dis arrive. Parce qu'ils sentent que tu es quelqu'un de différent. Quand tu prophétises là, c'est dangereux. Quand tu exhortes aussi, c'est dangereux. Quand tu mets en garde, c'est dangereux. Ils sentent que véritablement, toi, Dieu est avec toi. Alléluia. Et ils te craindront. L'Éternel fera quoi? Il t'ouvrira son bon trésor. Qu'est-ce qui ouvre le trésor encore? C'est la main. Un trésor, là, pour ouvrir sa foi, tu disais ta main, sa main. Donc, c'est la main de l'Éternel qui ouvre son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Amen. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Déclare, tout le travail de mes mains est béni. Tout le travail de mes mains est béni. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Alléluia. On a la fin de notre service et on va prier. Tout le travail de tes mains est béni. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, que ta main m'accorde le bonheur de jouir de mon travail. Que ta main me libère de toute forme de mensonge et d'esclavage. Que ta main soit avec moi. Qu'elle soit sur moi. Qu'elle soit en moi. Et qu'elle ouvre pour moi des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, Seigneur, que ta main ouvre pour moi ton bon trésor. Que ta main ouvre pour moi ton bon trésor. Et que les bénédictions que ta main a mises à part pour moi descendent dans ma vie et soient manifestées maintenant sur cette terre, dans ce monde, au nom de Jésus. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Dieu va te parler. Dieu va te parler à toi-même, personnellement, individuellement. Parce qu'il est là. Il a toujours été là. Vous savez ce que je ressens dans mon cœur? Parce que le Seigneur me permet de ressentir ce qu'il a dans son cœur en ce moment précis. Et ce que je ressens dans mon cœur, ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas la condamnation. Il n'est pas là pour te juger, pour te condamner. Toi, tu vois tes erreurs passer. Il les connaît. Il t'a pardonné. Ce que je vois et ce que je ressens, c'est ce grand amour que Dieu a pour toi. Vous savez, le Seigneur est attristé. Il est attristé parce que tu es loin de ce qu'il veut manifester dans ta vie. Je t'assure. Tu vois la gloire de Dieu, mais Dieu veut manifester encore plus de gloire. Tu as eu des témoignages en 2013, mais Dieu veut que tu... Il voulait que tu aies encore 50 fois plus de témoignages. Tu as eu des victoires, mais Dieu veut que tu triomphes. Alléluia. Il dit, mes projets pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur, afin que tu aies de l'espérance. Reste dans sa présence, reste dans sa présence. Reste dans sa présence. Winner's Life. Cette année, nous allons connaître des percées extraordinaires. Il y a des personnes au milieu de nous qui vont connaître des percées extraordinaires. Dieu dit, je regarde l'assemblée, je vois dans l'assemblée des personnes en qui je peux avoir confiance pour pouvoir déposer dans leurs mains le pouvoir, pour pouvoir déposer dans leurs mains la puissance, pour pouvoir déposer dans leurs mains l'autorité. Tu vas manifester une autorité surnaturelle. Toi-même, tu seras surpris de ta manière de faire les choses. Mais tu seras ferme dans tes décisions. Et tu seras ferme dans tes propos. Tu vas parler avec une telle autorité que les gens vont penser que tu es devenu audacieux. Mais tu vas rugir comme un jeune lion. Il y a des choses qui étaient tolérées et qui étaient permises, qui ne seront plus permises et qui ne seront plus tolérées dans ta vie, au nom de Jésus. Une autorité surnaturelle. Et surtout et par-dessus tout, qu'est-ce que Dieu va faire et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? La main de Dieu dans ta vie, il dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Plus personne ne va t'intimider. Plus personne ne va t'intimider. Plus personne ne va te faire baisser les yeux. Plus personne ne va te faire baisser les yeux. Plus personne ne va te faire douter de toi. Plus personne ne va te faire douter de toi. My God, tu as une assurance. Une assurance. Tu as une assurance. Quand tu vas parler aux gens, tu ne vas pas parler à la personne physique qui est devant toi. Tu vas parler à l'esprit qui se trouve derrière cette personne-là. Oh my God! Ta parole va transcender la chair pour pouvoir affecter l'esprit. Car la parole de Dieu est plus puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer l'âme de l'esprit. La parole que Dieu va mettre dans ta bouche pour parler aux gens, pour parler aux personnes, pour parler aux nations, pour parler aux autorités, pour parler à tes frères, à tes sœurs, à tes amis, pour parler aux gens, sera une parole transcendante, une parole capable de percer la chair pour affecter l'esprit. Dieu fait de toi un chirurgien dans le spirituel. Dieu fait de toi capable de pouvoir affecter le monde spirituel par la parole. Marche avec assurance. Marche avec assurance, tu n'es pas n'importe qui. La main de Dieu est en toi. La main de Dieu est en toi. La main de Dieu est en toi. La main de Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur toi. Dieu a besoin de toi. Sa main est sur toi et il utilise ta bouche pour parler. Ta bouche pour parler. Ta main pour toucher. Mais sa main est sur toi. Sa main est sur toi. Oh my God, my God, my God, my God. Je dis, des gens seront délivrés dans ce lieu. Des milliers d'âmes seront délivrées dans ce lieu. Des milliers d'âmes seront guéries dans ce lieu. Des milliers d'âmes seront affranchies dans ce lieu. Des destinées seront façonnées dans ce lieu. Des vies seront transformées. Tu vas collaborer avec le plus grand architecte de la terre et de l'univers. La main de Dieu est en toi, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen.
Nous espérons que ce message vous a édifié. Pour en écouter d'autres ou vous procurer un support CD ou un livre, allez sur votre librairie ou sur www.benimoi.com.